Les contes de l'Alhambra, tradition locale. Le peuple espagnol a une passion orientale pour les contes, surtout les contes merveilleux. On les voit rassemblés en cercle devant la porte de leur chaumière en été, ou sous le manteau immense des cheminées des ventas en hiver, écoutant avec délice les légendes miraculeuses des saints, les aventures périlleuses des voyageurs et les exploits hardis des contrebandiers et des voleurs. Le caractère sauvage de la contrée, l'ignorance, la rareté des sujets de conversation et la vie aventureuse que l'on mène dans un pays où l'on voyage encore à la manière des temps les plus barbares, tout contribue à entretenir l'amour des narrations orales et dispose à croire les choses les moins vraisemblables, les plus extravagantes. Mais les thèmes favoris de ces histoires sont les trésors cachés par les Maures. En traversant les Sierras désertes, autrefois le théâtre de tant de beaux faits d'armes, vous ne rencontrerez pas une seule atalaya perchée sur un pic élevé au milieu des rochers, ou dominant un village qu'on dirait creusé dans le roc, sans que votre muletier, questionné sur cet édifice, ne suspende la fumée de son cigarillo pour vous faire quelques comptes de pièces de monnaie arabe enterrées sous ses fondations. Vous ne rencontrerez pas non plus un seul alcazar dans les villes qui n'ait également sa tradition dorée, perpétuée parmi les pauvres gens du voisinage de génération en génération. Ces traditions, de même que la plupart des fictions populaires, doivent leur origine à des faits réels. Pendant ces guerres entre les chrétiens et les maures, qui ont si longtemps affligé le pays, les châteaux et les villes étaient sujets à changer souvent de maître, et les habitants avaient coutume, lorsqu'ils étaient assiégés, d'enterrer leurs bijoux et leur argent dans les caves ou les puits, ainsi que cela se pratique encore dans les régions guerrières de l'Orient. À l'époque de l'expulsion des Maures, plusieurs d'entre eux cachèrent leurs effets les plus précieux dans l'espoir de revenir bientôt dans leur terre natale et d'y retrouver leur trésor. Il est certain qu'en fouillant la terre dans les ruines ou dans les environs des maisons et des palais mauresques, on trouve quelquefois des coffres pleins de monnaie d'or et d'argent qui revoient le jour après être restés enfouis pendant des siècles. Il suffit d'un petit nombre d'événements semblables pour donner lieu à 1000 contes fabuleux. Ces sortes d'histoires offrent toujours ce mélange de gothique et d'oriental qui me semble distinguer toutes les habitudes, tous les traits essentiels des mœurs de l'Espagne, surtout dans les provinces du Midi. Le trésor caché est toujours placé sous la puissance d'un charme. Tantôt il est gardé par un dragon terrible, tantôt par des maures enchantés, qui, depuis des siècles, se tiennent tout armés, l'épée nue, immobiles comme des statues, auprès de l'endroit où leurs richesses ont été enterrées. Il est assez naturel que l'Alhambra, en raison des circonstances particulières de son histoire, fournissent une plus ample matière à ses fictions que tout autre lieu célèbre dans les chroniques. Des reliques, trouvées de temps en temps parmi ces ruines, ont accrédité les merveilleuses traditions répandues sur elles. Une fois, on déterrait un vase rempli d'or et le squelette d'un coq. Et les plus habiles en ces matières supposaient que cet oiseau, avait dû être enterré vif. Une autre fois, on découvrait une boîte contenant un grand scarabée et couverte d'inscriptions arabes, que l'on regardait comme des paroles magiques d'une grande puissance. Enfin, les plus beaux esprits de la population des guenillés qui habitent l'Alhambra se sont creusés la tête jusqu'à ce qu'il ne restât pas une tour, une salle, un caveau de la vieille forteresse qui n'eut son histoire miraculeuse. Comme j'espère avoir familiarisé mes lecteurs, dans les précédents chapitres, avec les localités de ce palais, je vais me lancer hardiment dans ces étonnantes légendes, que je me suis efforcé de rétablir dans leur entier en réunissant les fragments qui me furent contés en différents temps et par différentes personnes. C'est ainsi qu'un savant antiquaire forme souvent un document historique avec quelques lettres détachées d'une inscription à demi effacée par le temps. Si le lecteur trouvait dans mes récits quelque chose d'incroyable, qu'il daigne songer que le lieu dans lequel je me trouve ne saurait être soumis aux lois de probabilité qui gouvernent les scènes de la vie commune. Le sol que je foule est enchanté, et les événements les plus ordinaires y prennent une teinte surnaturelle.